Pensons un instant à ce scénario. On paie une taxe de 19 % non seulement sur le produit qu'on exporte, mais aussi sur l'air vide à l'intérieur de la boîte.
C'est complètement absurde, dit de même.
Tellement. Puis, tenez-vous bien, on paie cette taxe-là sur le prix du billet d'avion en plus. Ça semble complètement contre-intuitif, hein?
Oui, mais on dirait presque une erreur de calcul.
Exactement. Et pourtant, mais c'est la réalité quotidienne de milliers d'entreprises qui font des affaires à l'international. Aujourd'hui, on fait une grande exploration aux profondeurs de la route commerciale entre le Canada et l'Allemagne.
Une route qui est vitale. Tu sais, l'Allemagne, c'est vraiment le moteur économique de l'Europe. C'est un de nos plus grands partenaires.
Fait qu'on a épluché les dossiers, les rapports logistiques, les manuels douaniers. Et l'idée ici, c'est pas de lister des règlements en plate, mais de comprendre la mécanique en arrière de ça. Parce qu'expédier des marchandises là-bas, c'est pas comme envoyer un colis par la poste.
Non, vraiment pas. Ce qui est fascinant quand on regarde nos sources, c'est de réaliser que le fret aérien, ben, c'est carrément le système nerveux de l'économie moderne. C'est rapide, c'est hyper réactif.
Ben, c'est sensible aux erreurs, j'imagine.
Ah, tellement! C'est un service VIP à haut risque. La moindre erreur de documentation, puis bam! Des millions de dollars de marchandises restent bloqués sur le tarmac.
Fait que pour bien décortiquer tout ça, on va suivre le parcours d'une expédition fictive. Mettons qu'on a une entreprise au Québec ou en Ontario qui fabrique des capteurs électroniques.
Des pièces de haute précision pour des portières de voiture, mettons.
Ouais, parfait. Et on doit livrer ça à une usine automobile en Bavière. La première question, c'est le transport. L'avion coûte drastiquement plus cher que le bateau, ça c'est connu.
C'est le jour et la nuit hein, pour les coûts, ouais.
Mais nos données montrent que pour des marchandises comme des pièces automobiles, des produits pharmaceutiques ou de l'électronique de commerce en ligne, l'avion est souvent le choix numéro un.
Exact. Et les routes principales pour ça partent souvent de Toronto, Montréal, Vancouver ou Calgary.
Puis ça s'en va vers des gros hubs allemands comme Francfort, qui est comme le carrefour principal, ou Munich et Berlin. Un vol prend de 2 à 7 jours, alors que le bateau, ben, on parle de 3 à 6 semaines.
C'est une différence énorme.
Ben, c'est ça. Fait que, décortiquons un peu tout ça. J'ai une analogie en tête. Le bateau, c'est comprendre l'autobus de ville avec 50 arrêts, puis l'avion, c'est une ambulance avec les gyrophares allumés.
Ah, c'est une très bonne image, ça!
Mais pourquoi une entreprise paierait le prix de l'ambulance si c'est pas une urgence médicale? Est-ce que l'avion, c'est juste pour les catastrophes de dernière minute?
Bien, c'est une excellente question, puis c'est souvent la première erreur qu'on fait en analysant ça. On associe tout le temps le fret aérien à quelqu'un qui a oublié de passer une commande.
Ouais, genre la panique.
Exact. Mais en réalité, cette urgence-là, elle est devenue structurelle avec le modèle du juste-à-temps. Tu sais, l'usine en Bavière, elle veut surtout pas stocker 3 mois de capteurs dans un entrepôt géant.
Parce que ça coûte une fortune à chauffer puis à gérer, j'imagine.
Tellement. Ils veulent que le capteur arrive exactement au moment où la portière est sur la chaîne de montage.
Fait que dans le fond, ils transfèrent le fardeau de l'inventaire sur le transporteur.
C'est en plein ça. Puis du côté du fabricant canadien, il y a la question de l'argent immobilisé. Mettons que tu as pour 1 million de dollars de capteurs qui flottent sur l'OCDA pendant 6 semaines.
C'est 1 million que tu peux pas utiliser.
Voilà. Ton argent est pris en otage sur un bateau. En avion, ton cycle est bouclé en quelques jours. Tu produis, tu expédies, tu factures, t'es payé.
OK, je vois. La rotation est tellement rapide que le coût du billet d'avion est absorbé par le rendement.
Exactement. Puis on oublie souvent que l'avion, c'est moins de manipulation physique, donc moins de risque de bris ou de vol.
Fait que le temps, c'est littéralement de l'argent. Bon, la décision est prise, on envoie nos capteurs par avion. Maintenant, la facture. Moi, naïvement, je me disais que je pèse ma palette, je regarde le prix au kilo, puis c'est réglé.
Ah, si seulement c'était aussi simple.
Ben oui, parce que dans les documents, je suis tombé sur le concept du poids taxable ou poids dimensionnel. Apparemment, les compagnies facturent le montant le plus élevé entre le poids réel puis le volume. Pourquoi ils font ça?
Pour comprendre ça, il faut voir un avion cargo différemment. Les compagnies aériennes vendent pas juste de la capacité de levage. Elles vendent de l'immobilier.
De l'immobilier volant, genre?
Ouais. L'espace dans la soute est hyper limité. Mettons une autre analogie. Si tu loues un gros penthouse luxueux juste pour y stocker un oreiller en plume...
Le propriétaire ne me chargera pas au poids de l'oreiller, c'est sûr.
Exact. Il va te facturer l'espace que tu prends. C'est le même principe.
C'est vraiment brillant. Fait que mon analogie à moi, c'est la barbe à papa contre les boules de quilles. Si j'envoie un avion plein de barbe à papa, ça pèse rien, mais ça prend toute la place.
C'est exactement ça. Dans ce cas-là, ils vont calculer le volume et utiliser une formule pour convertir ça en poids fictif. Et c'est là-dessus qu'ils basent la facture, plus les surcharges de carburant et de sécurité.
Fait que ça doit coûter une beurrée si tu fais pas attention.
Oh que oui. Si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est pour ça que l'optimisation de l'emballage s'est rendue une obsession.
Genre à enlever l'espace vide.
Tellement. Si ta boîte a 5 cm d'espace vide rempli de papier bulle, tu payes le plein tarif aérien pour faire voyager de l'air. Réduire le volume de 10 %, c'est des milliers de dollars d'économie.
Ah, wow. Bon, étant qu'on a engagé un ingénieur, nos bottes de capteurs sont parfaites, on paye le fret, l'avion atterrit à Francfort. On pourrait penser que le plus dur est fait.
Oh, on est juste à la moitié du chemin.
C'est là que la bureaucratie allemande entre en jeu. La douane, le fameux ZOL, puis le dédouanement. Et c'est là que ma surprise de l'intro revient. La TVA à l'importation de 19 %.
La Einfuhr Umsatzsteuer.
Ouais.
Un beau mot allemand.
Un très beau mot. Mais les sources disent que cette taxe-là, elle s'applique sur la valeur du produit plus l'assurance plus le coût du fret, la valeur CIF. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pourquoi taxer le transport?
Sur papier, ça a l'air d'une double imposition, je te l'accorde. Mais c'est un mécanisme antifraude. Imagine si la douane taxait juste le produit.
Les gens tricheraient sur la valeur.
Exactement. Je te vends une machine de 10 000 $ mais sur la facture, j'écris qu'elle vaut 100 $ puis que le shipping coûte 9 900 $
Ah! La vieille technique des sites d'engins. Tu vends un truc à un sou, puis tu charges 100 pièces de livraison.
C'est en plein ça. Fait que pour fermer cette faille-là, l'Union européenne taxe la valeur totale au moment où ça franchit la frontière. Fait que le fret est inclus.
OK, vu de même, c'est logique. Mais attends, il y a un truc qui cloche. Le Canada a la ICG avec l'Europe. Le fameux accord de libre-échange, CETA.
Oui, un accord majeur.
Mais si on a le libre-échange, pourquoi je me fais ramasser par une taxe de 19 %? Libre-échange, ça veut pas dire aucune taxe.
Ça, c'est un piège de vocabulaire classique. Faut séparer les droits de douane de la taxe de vente.
OK. C'est quoi la différence concrètement?
La CEG élimine les droits de douane. Un droit de douane, c'est une pénalité pour protéger le marché local. Fait que tes capteurs canadiens entrent à 0 % de droits de douane.
Ce qui est un super avantage contre un concurrent américain, mettons.
Énorme avantage. Mais la TVA de 19 %, c'est comme notre TPS ou TVQ ici. C'est une taxe de consommation. Que ton capteur vienne de Montréal ou de Munich, l'acheteur doit payer la taxe à son gouvernement.
Ah, d'accord. C'est super clair. Puis ça nous amène aux Incoterms, les fameuses trois petites lettres. DAP versus DDP.
La grande bataille des Incoterms, ouais.
Si je comprends bien, hein, DAP, l'acheteur paye les taxes à l'arrivée. Et DDP, le vendeur canadien paye tout. Moi, je me fais l'avocat du diable. Pourquoi s'imposer le DDP puis gérer ces taxes allemandes complexes au lieu de laisser l'acheteur s'en occuper en DAP?
C'est une réaction très naturelle, mais c'est purement une question d'expérience client. Mettons que tu vends en DAP. L'acheteur en Bavière voit sa palette bloquée à l'aéroport.
Puis là, il reçoit un appel, la douane.
Exact. Un courtier lui demande de payer une facture surprise de plusieurs milliers d'euros de TVA puis de frais de dossier. Faut qu'il fasse approuver ça par sa comptabilité, ça prend des jours.
Pendant que sa chaîne de montage est arrêtée, c'est carrément une prise d'otage.
C'est comme ça qu'il le perçoit, ouais. La prochaine fois, il va juste acheter local en Allemagne pour éviter le trouble. Mais si tu offres le DDP, tu dis « je m'occupe de tout ».
Fait que c'est une stratégie de vente, dans le fond.
Tellement! Le produit arrive direct à sa porte sans mauvaise surprise. C'est un argument marketing massif.
J'adore l'idée. On prend un cauchemar administratif puis on en pleut un avantage. Mais pour que le DDP marche, il faut que la paperasse soit parfaite. Nos sources parlent de la facture commerciale, de la lettre de transport, de la liste de colisage.
La fameuse montagne de papier. L'avion vole à 900 km/h, mais un mauvais formulaire l'arrête à zéro.
Exact. Et là, on a les codes SSH puis le numéro EOI. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? Pourquoi je ne peux pas juste écrire pièce d'ordinateur ou capteur sur ma boîte? Pourquoi cette obsession pour un code à 8 chiffres?
Ça soulève une question importante. Faut se mettre à la place de l'algorithme des douanes allemandes. Les mots, ça veut rien dire pour un ordinateur.
Surtout dans une autre langue.
Exactement. Un capteur, c'est vague. Est-ce que c'est un truc bas de gamme ou un bidule avec des lasers restreints pour la sécurité? Une description vague, c'est la cause numéro un des inspections physiques.
Fait que le code SH, c'est le vrai langage.
C'est le langage universel. Si tu te trompes de code, tu pourrais payer 5 % de douane au lieu de zéro puis avoir des amendes rétroactives.
Ça pardonne pas. Puis c'est quoi le numéro EORI d'abord?
C'est l'identification obligatoire pour importer en Europe. Si l'importateur n'a pas ce numéro-là, Les systèmes informatiques bloquent tout. C'est même pas un humain qui refuse, c'est le logiciel qui barre la porte.
C'est fou. Bon, papier parfait, emballage optimisé, mais il reste les marchandises interdites ou restreintes, genre les batteries au lithium.
Ah, les batteries, c'est un casse-tête mondial à cause des risques d'incendie. Faut des emballages certifiés, puis parfois ça peut juste aller dans des avions cargo, pas avec les passagers.
Puis nos documents parlent aussi de la Verpackungsgesetz, la loi allemande sur les emballages. C'est quoi ça encore?
Ça, c'est pour le recyclage. Si tu expédies des boîtes en carton ou du plastique en Allemagne, tu dois t'enregistrer puis payer une redevance pour financer leur recyclage.
Attends, vraiment? Même si je suis une petite PME au Canada?
Surtout si c'est une PME. Si tu le fais pas, les amendes sont énormes puis tu peux être banni du marché.
Voyons donc. C'est d'une complexité incroyable. Comment une PME fait pour s'en sortir sans un département logistique géant? Les sources mentionnent la consolidation. C'est quoi la stratégie derrière ça?
Meilleur ami. Tu sais, les compagnies aériennes chargent moins cher au kilo si tu envoies de gros volumes.
Fait que si j'envoie juste 100 kilos, je paye le gros prix.
Exact. Le tarif de détail. Ce que le transiteur fait, c'est qu'il loue un grand espace, mettons 2000 kilos. Il prend tes capteurs, le sirop d'érable d'un autre, des pièces d'avion d'un troisième.
Puis il consolide tout ça pour avoir le tarif de gros.
Exactement. Hein? Ça permet à tout le monde d'avoir un meilleur prix. Puis en plus, ils peuvent t'aider à choisir le bon service.
Oui, parce que les sources disent de ne pas toujours prendre le service express de 2 à 4 jours, non?
Ben oui. Si l'usine a juste besoin des pièces vendredi prochain, ça ne sert à rien de payer pour que ça arrive mardi. Le service standard de 3 à 7 jours est bien moins cher. Faut juste éviter les saisons de pointe.
Fait que, en résumé, le fret aérien, c'est vraiment pas juste déplacer des boîtes. C'est maîtriser les emballages, choisir les bons incoterms, avoir des KDSH parfaits. C'est ça qui protège tes marges.
Absolument. La vitesse de l'avion, ça vaut rien si t'as pas la fluidité administrative en arrière. C'est une synergie totale.
Et ça nous amène à une pensée finale assez provocatrice, je trouve. Avec toute cette vitesse-là, puis les douanes numériques qui dédouanent les trucs pendant que l'avion est encore au-dessus de l'océan...
Ouais, les algorithmes sont rapides.
C'est ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer un avenir proche où les entreprises nord-américaines auraient même plus besoin d'entrepôts physiques en Europe?
Une méchante bonne question!
Tu sais, si l'avion devient littéralement un entrepôt volant capable de livrer n'importe où en 72 heures, ça changerait carrément l'architecture du commerce mondial.
Les entrepôts volants, ça donne à le vertige d'y penser.
C'est clair. Fait que gardez ça en tête la prochaine fois que vous verrez un avion cargo dans le ciel. Merci de nous avoir accompagnés pour cette exploration en profondeur. À très bientôt!